Cet évangile, frères et sœurs, résonne aujourd'hui à nos oreilles de manière particulière, peut-être non seulement dans le contexte du moment, mais dans le contexte de ces dernières années, le contexte de l'Église, la mise en garde de Jésus à ceux qui ont des responsabilités. Enfin, n'oublions pas que Jésus parle, met en garde sur le mauvais comportement des scribes et des pharisiens. En tout cas, voilà un évangile qui pourrait donner lieu à une compréhension purement littérale et même une application purement littérale, un peu rapide comme ça. Et souvent, quand on se contente juste de cela, on fait des erreurs. On est même tenté de faire des anachronismes pas tout à fait justes. Peut-être, avant d'essayer de comprendre pourquoi Jésus met en garde, peut-être devons-nous replacer les choses dans leur contexte. En préparant cette homélie, j'ai retrouvé une citation de Bossuet qui était prêtre, qui, commentant ce passage, disait « Méfions-nous, parce que à dénoncer les abus du clergé, c'était à cela que faisait référence Bossuet, à dénoncer les abus du clergé, non pas qu'il ne faille pas les dénoncer, hein, mais si nous ne les dénonçons pas bien, dit-il, nous risquons de tomber dans un abus plus grand qui est de mépriser le ministère de Dieu sous prétexte que certains l'exercent mal, que certains sont cause de scandale. Bien sûr, il faut faire la part des choses, et peut-être qu'en resituant les paroles de Jésus dans leur contexte, en resituant cet évangile dans un contexte même plus général, nous allons nous garder de cette erreur. On dirait aujourd'hui peut-être jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein, c'est peut-être l'expression qu'on emploierait. En tout cas, soyons attentifs à ne pas aller trop vite dans une compréhension et surtout dans une pratique. Parce que les pratiques trop rapides ou les conclusions trop rapides ne portent souvent pas beaucoup de fruits. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de comprendre en fait déjà la première lecture, le prophète Malachie. C'est intéressant, le prophète Malachie, c'est le dernier livre prophétique de la Bible. C'est ce petit livre d'un prophète qui conclut l'Ancien Testament, non pas dans la chronologie des choses, mais dans l'ordonnancement des livres bibliques. Avec le prophète Malachie se conclut l'Ancien Testament. Vous tournez la page de votre Bible et vous tombez sur l'évangile de saint Matthieu. Et donc ça lui donne une importance comme celui qui clôt l'Ancien Testament. Et donc, déjà, quand Malachie parle des prêtres, il parle des prêtres de l'Ancien Testament, les prêtres de la lignée d'Aaron. Et le prophète Malachie, il arrive à une époque, il est porte-voix de Dieu, à une époque compliquée d'Israël, puisque vous savez que dans l'histoire d'Israël a eu lieu un événement terrible qui a été la déportation à Babylone. Et avec cette déportation, qui a été massive, Jérusalem a été ruinée. Tout a été mis à sac. Le temple a été détruit. Et donc ça a été un moment de purification, si on veut l'entendre de manière positive, mais en tout cas un grand moment de souffrance. Et puis on est revenu sur la Terre Sainte. On est revenu à Jérusalem, on a rebâti murailles, et temple, et on s'est dit, reprenons comme avant. Vivons comme nos pères dans la gloire d'Israël. Mais ça ne marchait pas. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible pour une raison très simple. C'est qu'avec l'exil, s'est effondrée la royauté d'Israël. Le dernier roi a été déporté, Jéconias, a été mis à mort. Et en tout cas, il est mort en exil, mais il a été torturé. Et la descendance de David, à qui était promis la royauté, c'est pas éteinte, mais en tout cas, n'était plus sur le siège royal. Et donc, s'il n'y a plus de roi, forcément, il y a un vide. Alors déjà, on peut comprendre. Ah, s'il y a un vide dans l'histoire sainte, c'est qu'il y a une attente. Quelqu'un va venir combler ce vide. Et du coup, toutes ces années, ces longues années sans roi, probablement que c'était la manière de Dieu de préparer son peuple au roi nouveau, celui qui sera vraiment le descendant de David, mais le descendant de David, le Christ. En tout cas, forcément, quand il y a un vide, il y a ceux qui veulent prendre la place. Et dans une société comme Israël, retour de l'exil, ce qui restait un peu d'organisé, ce qui semblait subsister dans l'organisation, c'était le sacerdoce. Le sacerdoce d'Aaron. C'était le service du temple, le culte, les sacrifices. Et donc, petit à petit, le pouvoir sacerdotal s'est étendu, non plus juste pour servir le temple et servir le culte rendu à Dieu, mais pour conduire le peuple de manière un peu politique. Et d'ailleurs, on comprend ça, puisque on voit dans l'Évangile, en ce moment de la passion du Christ, on voit le pouvoir des prêtres, des grands prêtres, du conseil des prêtres, et la manière dont ils vont traîner celui qu'ils ont fait prisonnier, celui qu'ils ont arrêté, qu'ils vont traîner devant Pilate pour demander sa condamnation. Alors Malachi dénonce ça bien avant l'heure du Christ, bien sûr. Il dénonce ce pouvoir sacerdotal qui n'est plus un pouvoir pour Dieu, mais qui est un pouvoir où on se donne de l'importance. Et il dit, vous prêtres, ce n'est pas ça que le Seigneur attend de vous, et d'où cette phrase étonnante, hein, je maudirai les bénédictions que vous prononcerez si vous ne remplissez pas votre véritable office de prêtre, si vous en profitez pour être autre chose. Voilà à quoi fait référence le livre de Malachi, en tout cas cette partie du livre de Malachi. Et puis, l'Église nous faisant entendre cette prophétie, nous fait ensuite, bien sûr, entendre l'Évangile où le Christ dénonce. Dénonce quoi ? Encore une fois, dénonce l'attitude des scribes et des pharisiens. Et nous savons, il faut lire l'Évangile, non pas juste un petit passage comme ça qu'on sort de son contexte, mais lire l'Évangile dans son tout. Or, depuis plusieurs dimanches, nous entendons l'attitude des pharisiens, des scribes, des sadducéens et des hérodiens. Nous les entendons s'approcher de Jésus chaque dimanche pour le tenter, pour le piéger, pour trouver la faille dans son enseignement qui fera qu'on l'arrêtera pour le condamner. Et donc nous voyons comment ils insistent. Pourquoi ? Contre le Christ. Et voilà que ceux qui sont normalement chargés, en tout cas habillés d'un certain savoir de la parole de Dieu, un savoir de la loi, connaissance de la loi, voilà que ceux-là, en fait, s'opposent au Christ, s'opposent à celui qui vient accomplir la loi. Et c'est ça le drame. Ceux qui devraient éclairer la loi par leur enseignement, pour permettre une véritable pratique de la loi, détourne de Dieu, en fait. Voilà pourquoi Jésus est si dur. Et aujourd'hui, les paroles de Jésus, elles sont gentilles sur les pharisiens. Parce que si vous allez un peu plus loin, quelques versets après, dans l'évangile de saint Matthieu, Jésus profère des sortes de malédictions à l'égard des pharisiens, de leur attitude. Voilà. Et donc, que fait Jésus ? Jésus dénonce, là aussi, ceux qui, finalement, au lieu d'être tournés vers Dieu et dans leur responsabilité d'enseignant, hein, de maître, de rabbi, devraient entraîner vers le Seigneur, cela bloque. Cela devient comme un paravent, même on devrait dire un mur. Le Christ dénonce l'attitude des pharisiens. Et alors, du coup, aujourd'hui, c'était hier, mais puisque notre Église est dédiée à Saint Charles, aujourd'hui nous voulons honorer Saint Charles Borromée. Et voilà un bel exemple. Le prophète Malachi, l'Ancien Testament, le Christ, la jointure, le sommet de l'histoire de l'humanité, Saint Charles Borromée, 16e siècle. On pourrait dire, voilà, celui qui va pratiquer l'Évangile, vivre derrière le Christ. Qui est-il ? Saint Charles Borromée, donc évêque de Milan. Incroyable, Saint Charles Borromée. Évêque converti. Dans quel sens ? C'est une époque assez trouble de l'histoire de l'Église. Hein. Une époque où ceux qui sont revêtus du pouvoir sacerdotal, les clercs, tout ce qui tourne autour du Vatican, enfin de Rome, ce qui importe à la majorité, c'est le bénéfice qu'on en tire. Et quand je dis le bénéfice, c'est financier. C'est l'argent qu'on retire des responsabilités qui nous sont confiées. Nous, on est gentils, hein, aujourd'hui, dans nos dérapages, on pourrait dire. Il n'y a jamais de dérapage gentil, hein, mais on n'est pas dans une situation de l'Église aussi trouble qu'elle le fut à cette époque-là. Et Saint Charles Borromée, tout jeune, voit un de ses oncles devenir pape. Et alors, du coup, il est lui aussi promu à une place de choix à la cour de Rome. Et puis, il n'est pas prêtre, hein, il n'est que clerc. Il est, on pourrait dire, en chemin vers le sacerdoce. Et alors, il est nommé immédiatement cardinal, quand même, il faut l'honorer, il est d'une grande famille. Et puis, surtout, on lui confie le siège épiscopal de Milan, qui est vraiment la grande ville. Et là aussi, charge épiscopale qui rapporte bien. Et Saint Charles Borromée est très content de cette affaire-là et s'en sort bien matériellement, jusqu'au jour où son frère meurt. Et voilà que, alors qu'il est dans les faces de la cour, etc., etc., voilà que tout d'un coup se posent à lui les vraies questions de la vie. Et il se convertit. Et son premier acte de conversion, c'est de demander à être ordonné prêtre et à exercer sa charge d'évêque, non pas de loin comme ça pour juste ramasser ce qui tombe dans la corbeille, mais en allant à Milan et en entraînant à sa suite vers le Christ. Et voilà qu'il devient un saint évêque alors qu'il était parti sur un autre chemin. À tel point qu'il rencontre beaucoup d'opposition parce qu'il va... être d'une certaine manière exigeant pour demander aux prêtres de Milan d'assurer aussi clairement leur ministère de prêtre. Il aura même tellement d'opposition qu'on raconte qu'un jour un religieux lui tirera dessus. Il était en prière et il lui tire dessus. Il le rate. Et l'histoire dit qu'il n'a même pas tourné la tête. Et en fait, comment Saint Charles Borromée a-t-il réagi à tous ces désordres de l'Église dont il était complice au début ? Par sa conversion personnelle. C'est ça, frères et sœurs. Il n'y a pas d'autre moyen de réformer l'Église, et Saint Charles Borromée est à une époque où il faut mettre en œuvre de grandes décisions de l'Église qui ont été prises dans ce grand concile qui est le concile de Trente, et particulièrement sur la formation des prêtres. Particulièrement sur la vie des sacrements. Comment le fait-il ? Non pas juste avec des belles paroles, des grands discours, etc. Non, 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 non. Par sa sainteté personnelle et par l'exemple qu'il donne. On pourrait dire il met en œuvre une phrase beaucoup plus ancienne, une citation beaucoup plus ancienne de Saint Ignace d'Antioche, lui aussi évêque, 3e siècle. Saint Ignace d'Antioche, c'est assez lapidaire comme phrase. Il dit « Il vaut mieux se taire et être que parler et ne pas être. » Et voilà. En fait, ce que Jésus dénonce, c'est probablement ça. C'est l'attitude de ceux qui ont une responsabilité, ont une mission sur le peuple de Dieu, mais qui s'en servent davantage pour eux-mêmes, on pourrait dire pour paraître, pour en tirer avantage personnel, et non pas pour servir. Frères et sœurs, dans l'Église, ceux à qui le Christ a confié une mission, on pourrait dire comme baptisé à l'égard du monde, mais probablement aussi, bien sûr, comme ministre, par l'ordination, ceux-là suivent celui qui est serviteur, et non pas celui qui se place comme... chef, maître, etc. Celui qui est serviteur. Peut-être pouvons-nous, avant d'entendre la parole de Dieu et d'avoir un peu ce réflexe contemporain qui est d'accuser, de suspecter, etc., Peut-être pouvons-nous déjà prier pour que ceux que le Christ a chargés de conduire l'Église soient vraiment des serviteurs, soient d'abord, et c'est ça la sainteté, soient d'abord eux-mêmes, du plus profond d'eux-mêmes, tournés vers le Seigneur et aident chaque membre du Christ, chaque homme appelé par le Christ au salut, l'aide à se tourner vers le Seigneur. Amen.